Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Nous sommes en Espagne, dans la chaleur assommante du désert de Castille, en un temps où les princes et les châteaux ne sont pas que dans les contes. Ici et là, quelques moulins à vent dans la poussière claire, et puis l'air qui vibre comme un mirage à perte de vue. Nous partons, sans autre but que chercher l'aventure, en compagnie de l'ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche, et de son écuyer Sancho Panza. Cervantes est né en plein siècle d'or. L'Espagne rayonne alors jusqu'aux confins du Nouveau Monde. Mais ne nous méprenons pas. L'atteinte d'un sommet annonce souvent un déclin, et notre auteur naît au moment où le pays sombre dans une crise économique et sociale telle que les Hidalgo, ruinés, sont confrontés au pillage de bandits venus de tous les horizons. Les picaros, les truands, les gitans, c'est le règne du brigandage, de la paresse aussi, de l'ivrognerie. Et je ne parle pas des épidémies. Ce contexte inspire sans nul doute Cervantes dans le choix de ses personnages. Sa façon de mettre en scène les petites gens n'est pas sans relation avec la misère grandissante de l'Espagne d'en bas. Qui se couche avec des chiens se lève avec des puces. Quelque petit que je sois, je tiens mon rang dans le monde. Chaque fourmi a sa colère, chaque cheveu fait son ombre sur la terre, chaque coq chante sur son fumier. Lorsque Cervantes publie son roman, il a 57 ans. Il a vécu une vie qui aurait pu être celle d'un héros de roman. Bercé par les rêves de gloire militaire, Cervantes combat vaillamment à la célèbre bataille de Lépante. Il y reçoit 3 coups d'arquebuse, dont un lui fait perdre l'usage de sa main gauche. De retour par la mer, sa galère est prise d'assaut par les pirates et il est emmené au marché aux esclaves. Prisonnier à Alger, il organise tour à tour 4 évasions. Toutes échouent à cause de la traîtrise de ses complices. Racheté en 1580, Cervantes rejoint finalement sa famille et se met à écrire. Ses aventures ne s'arrêtent pas là. Il connaîtra à nouveau la prison, en Espagne cette fois. Bref, sa vie est un véritable roman d'aventure. Vous en trouverez quelques détails sur notre site. À la lumière des événements de sa vie, on comprend que son Don Quichotte représente ses rêves de grandeur et de bravoure. Cet idéal d'héroïsme qu'il a toujours habité et que la réalité n'a eu de cesse de briser. En un mot, Don Quichotte, c'est l'incarnation même de son rêve déçu, et c'est en même temps la part de lui qui refuse de renoncer. Dans son prologue au lecteur, Cervantes présente ainsi ses affinités avec son personnage. Que pouvait produire ma pauvre cervelle stérile et mal cultivée, sinon l'histoire d'un homme sec, rabougri, fantasque, plein d'étranges idées que nul autre n'avait eues avant lui? Comme peut l'être ce qui a été engendré dans une prison, ses jours des plus incommodes, où tout triste bruit à sa demeure. Ce court extrait du prologue résume déjà tout l'esprit baroque qui anime Cervantes. Des idées étranges, enfermées dans la tête d'un personnage sec et rabougri, lui-même enfermé dans la tête d'une cervelle stérile et mal cultivée, elle-même enfermée dans une prison. Quelle admirable mise en abîme! Cervantes évoque les tristes bruits qui peuplent les prisons. Des grattements de rats, des grincements de portes, des claquements de loquets, des gémissements. Une sorte de triste ramassis de sons informes surgissant du vide. C'est donc de ce sombre chaos qu'aurait émergé ce livre de peu, ce livre décadent et sans importance, au dire de son auteur. Un livre qui ne ressemble en rien à ce qu'on appelle un livre en ce temps-là. Dans son prologue, Cervantes s'excuse d'avoir écrit cet ouvrage atypique, une façon détournée et bien baroque de remettre en question les conventions admises et de dessiner à grands traits sa spécificité. Je ne suis que le paraître de Don Quichotte et non le père, comme on pourrait le croire, nous avertit Cervantes. La différence est subtile, mais elle est révélatrice d'une conception particulière de son statut d'auteur. Écrire, ce n'est pas créer pour lui. Inventer un personnage, ce n'est autre que livrer une apparence, un reflet de lui-même.
Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom ? Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha.
On se souvient de Jacques Brel qui chante Don Quichotte dans l'adaptation française de la comédie musicale créée à Broadway en 1965. Engendrer un personnage qui se berce d'illusions en guise de réponse à un rêve déçu, c'est bien triste en vérité. Mais Cervantes prend le parti d'en rire. Son roman est une parodie. Don Quichotte est la caricature du chevalier errant. L'un de ces jeunes et vaillants chevaliers qui parcourent la terre au service de la justice et de la charité, dont la hardiesse et la loyauté font frissonner des mois toutes les gentes d'âme. Il met à l'honneur ces fameux romans de chevalerie qui font tourner la tête de toute la génération passée. Parodier les idéaux du passé, c'est certes un signe de décadence, mais c'est en même temps une prise de distance, nécessaire pour un questionnement plus essentiel. Nous allons voir comment Cervantes induit au-delà du rêve et des illusions de Don Quichotte une perception inédite de la réalité. Lire, écrire, rêver, quoi de plus efficace pour fuir une réalité qui nous a déçus? Voici comment Cervantes présente son personnage. Notre gentilhomme se donnait avec un tel acharnement à ses lectures qu'il y passait ses nuits et ses jours, du soir jusqu'au matin et du matin jusqu'au soir. Il dormait si peu et lisait tellement que son cerveau se dessécha et qu'il finit par perdre la raison. Il avait la tête pleine de tout ce qu'il trouvait dans ses livres. Enchantement, querelle, bataille, défi, galanterie. Et il crut si fort à ce tissu d'invention et d'extravagance que pour lui, il n'y avait pas d'histoire plus véridique au monde. Nous savons bien, vous et moi, à quel point les livres peuvent nous faire voyager. Voyager dans le temps, dans l'espace, mais aussi sur un territoire qui dépasse tout cela, l'espace de notre imaginaire. Cela nous est déjà arrivé de nous laisser ravir par les pages d'un livre jusqu'à en oublier la réalité, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui arrive à Don Quichotte avec ses romans de chevalerie. Il aimerait tellement vivre dans le monde de ses héros qu'il n'en revient pas. Cette expression est à prendre au sens propre. Il a tant vécu la réalité de ses livres qu'il y est resté. Son imaginaire a pris le pas sur sa réalité. Et le voilà persuadé qu'il doit, lui aussi, partir de par le monde en qualité de chevalier. En quelques mots, Don Quichotte, c'est l'histoire d'un mythomane. L'histoire incroyable d'un mythomane tellement atteint que la seule réalité qui vaille pour lui est celle que produit son imagination. Don Quichotte récupère une vieille armure, trouve une lance, harnache son vieux cheval et il part. Mais attention, le plus important pour un chevalier, c'est la dame de son cœur. Dulcinée, oh Dulcinée, il lui invente déjà des flots de poèmes. C'est pour elle que Don Quichotte brave tous ses ennemis imaginaires. Elle fait battre son cœur, elle le guide et le soutient dans sa quête. Mais elle n'existe pas. Celle qu'il baptise Dulcinée n'est qu'une invention de son imagination. Ce n'est qu'au cœur du deuxième tome que Don Quichotte désire enfin la rencontrer. Il charge son écuyer Sancho Panza d'aller la chercher. Trouver une dame qui pourra incarner l'idéal absolu de ses rêves les plus fous, voilà une bien délicate mission pour Sancho Panza. Il s'en va, perplexe, et voici ce qu'il se dit à lui-même. Eh bien, puisqu'il est fou, et d'une folie qui lui fait la plupart du temps prendre une chose pour une autre, le blanc quand c'est noir, le noir quand c'est blanc, comme il prétendait que les moulins à vent étaient des géants aux grands bras, les mules des religieux, des dromadaires, les hôtelleries des châteaux, les troupeaux de moutons des armées d'ennemis, et un tas d'autres choses de ce goût-là, il ne me sera pas bien difficile de lui faire croire que la première paysanne qui croise mon chemin et Madame Dulcinée. Sacré Sancho Panza, tout simple qu'il est, il se joue à merveille des travers de son maître. Lorsqu'il présentera la paysanne à Don Quichotte, bien qu'il soit précisé qu'elle a un nez de canard, des cheveux en poils de vache, des poils étonnamment longs sur le corps, des manières de rustre et surtout une terrible odeur d'ail, Don Quichotte en tombe follement amoureux. Persuadé qu'il est par son écuyer que cette apparence provient du maléfice d'un quelconque enchanteur. Don Quichotte désire tellement vivre des aventures héroïques qu'il parvient à les inventer de toutes pièces, même en plein désert. On a tous en mémoire le pauvre bougre qui se jette à corps perdu vers les moulins à vent, comme s'il s'agissait de terribles géants. Les scènes sont étonnantes et drôles, les rebondissements font redoubler nos rires. En quelques 1200 pages, écrites en tout petit sur deux tomes de livres, il ne laisse à son héros, et donc à son lecteur, aucun moment de répit. Les aventures rocambolesques s'enchaînent, amusantes et cruelles. En définitive, quelle est réellement l'intention de l'auteur? Amuser, oui, certes, mais encore. Cervantes nous interroge sur le sens du mot « réalité ». Don Quichotte a porté à son comble cet adage qui consiste à prendre conscience que nous sommes les premiers auteurs de ce que nous vivons. Le monde est ce que l'on pense qu'il est. Tout son roman consiste à démontrer que ce que l'on vit est à l'image de ce que l'on est. Et cette façon baroque de mettre en abîme son récit donne à l'extravagance des péripéties une distance qui porte à réfléchir. Force, faiblesse, folie ou sagesse ultime. Je vis en mourant. Je brûle dans la glace, je tremble dans le feu. J'espère sans espoir. Je pars et je reste. Je vis de mon désir de vivre. Nombre de cinéastes ont cherché à mettre en image Don Quichotte. Pour certains, ce projet a pris l'allure d'une épopée. Parmi eux, le grand Orson Welles, qui entreprend de produire et réaliser un film en 1955. Le tournage commence, mais le budget est serré. Il entreprend un film muet, en noir et blanc, sans script et sans scénario, avec caméra portable. Welles tourne son film par petits bouts, au fur et à mesure que les moyens le permettent. On dit que Don Quichotte a été son obsession pendant plus de 20 ans. Il tente plusieurs montages, mais ne parvient pas à donner une forme satisfaisante à son film. Pour autant, il ne se résigne pas. Il prend le parti de la souplesse, perdu au milieu de ses kilomètres d'images. Lorsqu'il meurt, en 1985, le film est inachevé. Les images qui nous parviennent sont étranges, insolites, cocasses. Nos deux héros finissent par se perdre dans une ville moderne, c'est dire. L'autre cinéaste n'est pas moins tenace. Il s'agit de Terry Gilliam. Réaliser Don Quichotte est le rêve de sa vie. Le tournage commence en 2000 et tourne très vite au tragicomique. Le premier jour, des avions militaires survolent le lieu du tournage et rendent la prise de son impossible. Le deuxième jour, un improbable orage éclate dans le désert espagnol. Des pluies diluviennes s'abattent sur le paysage désertique, endommagent le matériel et verdissent le paysage. S'ensuit pour Jean Rochefort une crise aiguë de hernie discale, l'empêchant de monter à cheval. Un Don Quichotte à pied, difficile à envisager. D'incroyables adversités s'accumulent. Elles sont détaillées dans un documentaire intitulé « Lost in La Mancha » et sorti en 2001. Terry Gilliam capitule pour cette fois, mais il n'abandonne pas. Il montra un nouveau projet de film en 2008, qui échouera aussi, un autre en 2011, puis en 2014. En 2019 enfin, un film sort en salle. L'homme qui tua Don Quichotte. Il suscite les controverses, délirant et excessif pour certains, il est pour d'autres à l'image de l'œuvre originale de Cervantes. Baroque et fou. Drôle et grave, toujours ambigu. En un mot, Terry Gilliam place son spectateur dans la même posture que Cervantes place son lecteur, à cheval entre deux mondes. Ces difficultés à mener au bout une mise en image m'interrogent. Qu'est donc la réalité lorsque, malgré les moyens matériels et techniques, malgré le contrôle de tout ce qui est prévisible, les circonstances bousculent un projet jusqu'à l'invraisemblable? Qu'est donc la réalité lorsque le vécu dépasse l'imagination? Don Quichotte aurait-il une réponse? Ah, l'ingénieux Hidalgo, le grand, le grave Don Quichotte! Il se rit bien de nous sur son cheval à bascule. Don Quichotte est un héros de l'enchantement. Quiconque le suit entre inévitablement dans une sorte de monde parallèle. Le réel n'est plus tout à fait ce qu'on croit. Chaque tentative de ramener Don Quichotte à la raison correspond à une mise en doute. Et le fou, en définitive, n'est peut-être pas celui qu'on croit. Cervantes lui-même a été pris dans les filets du vrai et du faux. Saviez-vous que la rédaction du tome 2 de Don Quichotte a été déclenchée par la publication d'une suite au premier volume écrite par un auteur anonyme ? Pour aller plus avant, dans les thématiques abordées dans ce podcast, je vous invite sur la page de notre site où sont compilées des références, des liens, des réflexions, des images et aussi les musiques qui accompagnent notre podcast.